días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. D'antemano, muchas gracias por tu...
Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Pascal Canfin, aujourd'hui directeur du WWF France depuis le mois de janvier. Alors Pascal Canfin, je parle sous votre autorité, hein, mais le WWF France compte 210 000 donateurs, emploie 220, c'est monté, emploie à peu près 80 personnes, hein, oui. C'est ça, dans trois bureaux décentralisés à Marseille, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en plus de son siège évidemment au Bois de Boulogne à Paris. Alors l'implantation française n'est pas la plus importante pour l'ONG, qui est donc présente dans une centaine de pays, mais les enjeux y sont énormes quand même, surtout en raison de l'exceptionnelle biodiversité terrestre et marine, notamment dans les Outre-mer. Alors comment est-ce que vous faites pour hiérarchiser les priorités quand on arrive comme ça à la tête d'une organisation ?
Alors, moi je trouve que le WWF a trois métiers. Le premier métier, c'est d'alerter. Et aujourd'hui même, on alerte sur l'état dans les sites UNESCO et sur leur dégradation. Et on alerte sur l'état de la planète de manière générale. Le deuxième métier, c'est la protection. On protège les espèces, on protège les espaces, on va replanter dans des forêts dégradées, on va protéger des espèces menacées sur le rhinocéros, l'éléphant, on va lutter contre les trafics, etc. Donc on cherche à protéger. Et troisième métier, c'est transformer. Transformer les politiques publiques, qui sont le cadre réglementaire dans lequel les activités s'inscrivent, et puis transformer les pratiques des entreprises de façon à ce qu'elles contribue à inventer un mode de production et de consommation soutenable. Donc ces trois métiers-là, vous voyez que c'est très large et c'est passionnant comme mission que d'être directeur du WWF en France.
Alors justement, vous parliez des entreprises, près de 20%, hein, je crois, du budget du WWF France provient des entreprises.
Oui, provient. Oui, je vais vous expliquer comment.
Alors ça a souvent soulevé des critiques, notamment sous vos prédécesseurs. Alors quelle est votre approche ?
Alors d'abord, effectivement, il y a un seuil maximum à ne pas dépasser, qui est fixé à 30%, et donc nous sommes en dessous de ce point de vue-là. Mais en même temps, le sujet, c'est combien de partenaires a-t-on ? Et au fond, est-ce qu'on est dépendant financièrement d'un partenariat avec une entreprise ? C'est ça le sujet, c'est ça la zone de risque, et il faut le mettre clairement sur la table. Donc quand on regarde les chiffres, pour le WWF France, le montant budgétaire maximum d'un partenariat économique, aujourd'hui, c'est 4% du budget. Ça veut dire que, et je vais vous dire qui c'est Michelin, pour travailler sur un partenariat transformationnel qui consiste à mettre en œuvre une certification durable, soutenable sur l'EVA, sachant que l'EVA, ça sert à faire quoi ? Ça sert à faire du caoutchouc, et que 70% de l'EVA qui est produit dans le monde sert à faire les pneus des voitures, et que le premier ou le deuxième acheteur mondial, ça dépend des années, c'est Michelin. Et donc, si on est capable, avec Michelin, d'inventer une certification et donc une traçabilité et une organisation qui produit du caoutchouc sans déforester, sans nuire aux populations locales et aux écosystèmes, eh bien, on aura fait œuvre particulièrement utile à l'échelle mondiale.
Parce mais donc que justement, aujourd'hui, c'est
on
ça,
est dans la transformation.
Sont ça vos critères, et c'est-à-dire ça. De choisir des entreprises qui acceptent de se transformer de l'intérieur.
Exactement. Aucun des partenariats du WWF, hein, qui contribue donc à ces 20% de recettes, n'est un pur partenariat de mécénat, en disant l'entreprise, si l'entreprise donne quelques milliers d'euros au WWF. Ça, c'était la version, je dirais, il y a très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Ce qu'on va chercher avec les entreprises, c'est une feuille de route commune sur un partenariat contractualisé avec des objectifs et un objectif qui est forcément transformationnel sur ce qui impacte le plus la biodiversité. Il y a 15 filières clés dans le monde qui ont un impact le plus important sur la biodiversité, sur les forêts, sur la pêche, sur les écosystèmes. Donc c'est la pêche, bien évidemment, l'aquaculture, le bœuf, le soja, l'huile de palme, le coton, etc., l'EVA, etc. Et notre vision au sein du WWF est simple, c'est de dire si on veut mettre fin à l'extinction des espèces, la crise extraordinaire hein, que connaît notre biodiversité, c'est-à-dire le vivant sur la planète, si on veut réussir à stopper la déforestation qui atteint des niveaux incroyables, si on veut réussir à arrêter la surexploitation des ressources halieutiques, donc des poissons, au bénéfice des pêcheurs et notamment des plus petits d'entre eux partout dans le monde, eh bien, il faut travailler avec ces entreprises qui sont au cœur du système. Il y en a 500 dans le monde. Et donc, en cherchant à cibler, soit positivement, en disant on va travailler avec elles pour inventer des certifications, pour assurer la traçabilité, pour mettre en œuvre des politiques de zéro déforestation, etc. Soit, si elles ne s'engagent pas, dans une logique oppositionnelle et confrontationnelle, et je l'assume totalement, Eh bien, c'est en faisant les deux qu'on parviendra, je l'espère, à enfin endiguer la crise écologique de notre planète.
Alors justement, vous parlez d'entreprises, de mondialisation. Quand on parle de 500 entreprises, sont les multinationales. Alors 4 mois après la COP21, la conférence de Paris sur le climat, Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, vient de vous commander un nouveau rapport sur le prix du carbone au niveau européen que vous devez rendre avec l'économiste Alain Grandjean et le président du groupe Engie, Gérard Mestrallet, le 1er juillet prochain. Vous avez déjà rendu un rapport avec Alain Grandjean à François Hollande en juin 2015 pour mobiliser les financements pour le climat. Alors, quelle est la différence ?
Alors, la différence, c'est que là, c'est ciblé sur le prix du carbone. Le rapport précédent était plus large et d'ailleurs a commencé à être mis en œuvre. Je vais vous donner un exemple, si j'ai une seconde, qui n'est pas celui du prix du carbone, justement, qui est celui de la réglementation financière. Aujourd'hui, en France, eh bien, pour la première fois, donc la France est le premier pays du monde, à obliger tous ceux qui gèrent notre épargne à rendre compte de leur exposition aux risques climatiques, à réorienter progressivement leur flux d'investissement, c'est-à-dire les produits financiers qu'ils achètent, pour les rendre progressivement compatibles avec un dérèglement qui respecte la limite des 2 degrés de réchauffement. Donc le rapport précédent était beaucoup plus large. Là, il s'agit concrètement, dans le contexte de la réforme européenne du marché du carbone, c'est que le premier marché du carbone au monde, c'est en Europe, il dysfonctionne. Une réforme est en cours, elle doit aboutir avant la fin de l'année. Et la proposition sur laquelle nous allons travailler, et c'est de mettre en place, sans rentrer dans la technique bien évidemment, c'est de mettre en place ce que j'ai appelé un corridor carbone, c'est-à-dire un prix plancher du carbone qui assure aux industriels une sécurité sur le fait que le prix du carbone sera au moins de X, et un plafond pour éviter une bulle éventuelle et de dire le prix du carbone va évoluer dans un corridor avec un plancher
et
un plafond.
Ben,
la fourchette, on va justement la définir. Mmh. C'est une négociation, pas dans le rapport, mais avec les autres pays. Mmh. Avec les autres pays, on verra bien. Moi, j'ai une position, mais il faut qu'il soit évidemment la plus ambitieuse possible. Je pense que pour beaucoup de secteurs qui sont très, ce qu'on appelle CO2 intensif, c'est-à-dire très émetteurs de CO2, un prix du carbone, pour que ça soit transformationnel, doit atteindre rapidement les 30-40 euros la tonne de CO2. Donc je pense que le minimum doit se situer autour de entre 10 et 20, ça ne doit pas descendre en dessous de ça, et la zone de l'évolution, ça doit être entre 20, 30, 40 dans ces zones. Là, on aura à ce moment-là une chose très simple, les centrales à charbon ne deviendraient absolument plus rentables et seraient remplacées par des centrales à gaz qui sont beaucoup moins polluantes, premier élément. Deuxième élément, les énergies renouvelables seraient encore plus compétitives qu'elles ne commencent à l'être aujourd'hui.
Alors ça sous-entend donc orienter les finances européennes. Alors c'est bien s'il y a des règles, des règles rigoureuses qui sont respectées. Or l'enquête Panama Papers qui met à jour les agissements du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation des sociétés offshore, démontre à quel point c'est facile quand même d'échapper à cette réglementation.
Alors il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que le prix du carbone, c'est un marché qui porte sur les industriels qui émettent, donc les sites industriels, les cimentiers, les sidérurgistes, les énergéticiens, et c'est objectivement normé la question des émissions. Ensuite, une fois que ça devient un produit financier, ça peut devenir un produit spéculatif. Là, c'est pas tant les questions de l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, c'est comment on, et c'est tout l'enjeu du corridor carbone, c'est comment on limite le risque de spéculation potentielle sur ce type de marché. Par ailleurs, là où je vous rejoins, c'est que, et je ferai le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire qu'une grande partie des destructions des sites naturels du patrimoine mondial à UNESCO, c'est pour faire des hydrocarbures, pour faire des mines. Et on a tellement d'exemples, notamment sur le continent africain, mais pas seulement, où l'exploitation des minerais, des ressources, de l'or, de toutes les terres rares, etc., finit par passer par les paradis fiscaux, parce que la filiale locale appartient en fait à une holding qui n'est ni à Madagascar, ni en Zambie, ni au Burkina Faso, ni au Sénégal, mais qui se trouve à l'île Maurice, ou au Luxembourg, ou à Jersey. Ce qui fait que on a par exemple, prenons les bananes, qui n'est pas un minerai, mais qui est un des gros enjeux du commerce international, le plus gros exportateur de bananes en Europe. Est-ce que vous savez qui c'est ?
Non.
Jersey. Je suis pas beaucoup certain qu'il y ait beaucoup de bananes qui y soient. Exactement. Mais tout ça, simplement, le trafic, le commerce passe par des entités qui sont basées à Jersey, qui captent une grande partie de la valeur ajoutée. qui fait que sur place, notamment en Afrique et dans les pays en développement, eh bien cette valeur ajoutée, elle est capturée. Et donc, elle ne sert pas aux populations locales, elle ne sert pas aux États pour développer des infrastructures, des services publics en matière de santé, d'éducation, etc. Et c'est ça le grand scandale des paradis fiscaux. C'est que non seulement ils hébergent de manière totalement opaque tous les trafics, mais en plus, ils empêchent les États d'avoir des ressources qui leur permettraient de faire des politiques de développement et de services publics. Donc il faut absolument, moi j'ai combattu dans ma vie antérieure en tant que député européen, j'ai combattu ces paradis fiscaux. Il y a des choses qui ont été gagnées ces dernières années. Les Panama Papers montrent que, évidemment, ça ne va pas encore assez loin.
Alors justement, face à tout ce délitement économique et politique aussi un peu, on est face à une crise de confiance, par exemple en France, notamment vis-à-vis des élites politiques, on le voit bien avec l'abstention qui monte, avec tous ces candidats qui fleurissent dans la perspective de l'élection présidentielle en 2017. Est-ce que vous comprenez que les citoyens commencent à se mobiliser? Par exemple, on voit émerger ce nouveau mouvement, la Nuit Debout, qui s'installe depuis quelques jours, place de la République, à Paris, et puis ça prend dans différentes places, dans différentes villes. Est-ce que justement vous faites le lien entre cette mobilisation totalement individuelle, hein, c'est une conjonction d'individus, il n'y a pas d'ONG qui sont à la base de ça, c'est spontané, et votre rôle en tant que directeur d'ONG?
Je crois effectivement, prenons le cas français, mais c'est vrai partout en Europe, on est face à une crise aujourd'hui de la démocratie représentative, c'est-à-dire que de moins en moins de Français font confiance aux politiques pour changer les choses. Donc on a besoin de restaurer ce bien public qui est au cœur de la démocratie, qui est je transfère du pouvoir à des gens qui vont pouvoir agir dans l'intérêt général et qui ont les moyens de faire quelque chose. D'où l'importance d'action pour reprendre la main sur la mondialisation. Et reprendre la main sur la mondialisation, c'est justement lutter contre tous les trafics, lutter contre les paradis fiscaux, lutter contre ce qui gangrène l'idée qu'on a un bien commun dont, en fait, personne ne prend soin. Donc je crois que c'est absolument décisif de restaurer cette capacité de l'action politique à agir. Et j'ai vécu dans le monde politique de l'intérieur pendant 5 ans. J'ai été élu au Parlement européen, j'ai été ministre pendant 2 ans. Je suis malheureusement un peu triste de devoir dire que j'ai vu plus de renoncements que de responsables politiques qui étaient prêts à prendre le taureau par les cornes, non pas dans un monde rêvé, idéal, où tout le monde se donnerait la main, mais en disant « j'ai du pouvoir et je vais l'utiliser efficacement ». L'Union européenne, c'est le premier marché du monde, premier marché économique au monde. Ça veut dire qu'aucune multinationale ne peut se passer de ce marché. Si nous étions capables de mettre des règles d'accès à ce marché, en disant « vous ne pouvez pas vendre si vous ne respectez pas telle et telle règle », et on commence à le faire timidement sur la forêt, sur la pêche, mais on pourrait le faire sur beaucoup d'autres choses, eh bien on reprend la main sur la mondialisation. Y compris dans un monde ouvert, y compris face à des acteurs mondialisés extrêmement puissants.
Et ça passe par de la mobilisation citoyenne au quotidien ?
Ça passe par des responsables politiques qui comprennent le monde pour le transformer. Il faut les deux. Il faut comprendre le monde tel qu'il fonctionne, et c'est un monde globalisé. Or, la plupart des élites françaises politiques sont adjoints au maire, maire, député maire, etc. Et ensuite montent, mais ont objectivement aucune expérience ni de l'Europe ni du reste du monde. Et ça, c'est le problème de compréhension. Et puis après, il y a un problème de volonté politique pour le transformer. Et pour le transformer, il faut d'abord le comprendre. Donc moi, je fais partie de ceux qui continuent à croire que c'est possible, sinon je ne ferai pas ce que je fais, mais qui a conscience que beaucoup de gens sont dans la désillusion et je ne peux pas leur donner complètement tort.
Merci Pascal Canfin d'être passé dans C'est pas du vent.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici. I.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Je connais un pays sous un ciel doux et chaud, Panama. Si vous cherchez l'oubli, partez donc aussitôt pour là-bas. Ce n'est pas loin d'ici, quelques jours de bateau, Panama. Mais si vous avez peur d'y laisser votre cœur, restez là. La danse, les chansons, le plaisir et l'amour commence aussitôt que vient le petit jour. On entend dans le fond des ruelles les échos. fait pour les rumbas. Partout l'amour vous interpelle et comme la vie est belle, on répond oui tout bas. Ne vous étonnez pas, ça se passe à Panama. La la la, la la la, la la la, Panama.
Mars 2015, place de la République à Paris. Comme tous les soirs depuis une semaine, des centaines de personnes sont là, debout dans la nuit, de tous les âges et de tous les milieux sociaux. C'est en tout cas notre impression, mais peu importe, car l'essentiel est ailleurs. Dans ce ras-le-bol partagé, ce sentiment de démocratie confisquée au profit de quelques-uns et surtout avec une forte envie de libérer la parole, d'occuper une place publique pour redonner un sens au mot politique. Lequel, c'est trop tôt pour le dire, mais le mouvement Nuit Debout s'étend déjà à plusieurs dizaines de villes françaises, en Belgique, en Espagne et en Allemagne. Ce que nous avons vu et entendu nous a plu et nous avons eu envie de le partager avec vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Je peux vous embêter deux secondes, vous poser une petite question?
Vous voulez pas me laisser juste modérer l'AG déjà? Mais oui, c'est ok. Mais pas trop trop long juste.
Non, efficace parce que je vois bien okay, que vous êtes très occupé.
Non mais fatigué.
Comment ça se passe là?
Ça se passe bien. Je trouve que la parole continue de circuler librement. C'est le but. C'est ce qu'on dit, c'est que pour l'instant on est au début de ce mouvement. Et qu'au début de ce mouvement, c'est juste important de laisser les gens parler dans l'espace public, reparler politique sans être dans un parti, sans être dans un syndicat, ce qu'on ne sait plus faire. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on a décidé pour cet AG, c'est finalement qu'au début, dans les premiers temps, juste laisser parler les gens. Donc oui, on est content. Alors ça a les lenteurs que ça peut avoir, ça a parfois les difficultés que ça peut avoir, mais oui, c'est bien juste de parler, de s'écouter, de participer.
Est-ce qu'il y a des discours qui reviennent régulièrement?
Oui, il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Il y a... la question d'écrire une constitution. Alors il y a la question des inégalités qui revient en permanence, c'est très large et voilà. Il y a la question du salaire universel, il y a la question des réfugiés. Et puis il y a aussi juste l'idée de dire voilà, le plaisir d'être là, le plaisir d'être là, le plaisir de constater qu'il y a du monde, le plaisir de pouvoir parler, etc. C'est les thèmes qui reviennent. J'en oublie sûrement, mais oui. Le fait d'être ensemble et dans autre chose que juste faire la fête, dans autre chose que juste passer du bon temps, mais en plus d'être ensemble et de passer du bon temps, et d'être probablement à l'embryon de quelque chose. Pour moi, l'AG, c'est un embryon. C'est-à-dire qu'on est au début d'un stade de développement, il y a un cerveau qui commence à pousser, il y a des bras qui commencent à pousser, des jambes qui commencent à pousser. Et là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de réponse ici et maintenant, mais on les construit petit à petit ensemble. Et déjà, on pose des questions.
Et le message, c'est rester toutes les nuits place de la République. Ça commence à essaimer dans d'autres endroits en France, dans d'autres endroits en Europe.
Le message, c'est qu'il faut que ça se construise sur le temps long. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est un embryon. Si on veut que l'embryon, ça devienne un vrai bébé, il faut que ça se fasse sur le temps long. C'est pas un mouvement qui doit se faire sur 15 jours. C'est pas un mouvement qui doit se faire sur un mois. Ça doit se faire sur le long terme. Si on veut que les groupes de travail avancent sur des sujets, qu'on ait vraiment des choses à proposer, que le mouvement soit une vraie chair, il faut que ça se fasse sur le temps long. Pas 15 jours, pas un mois, c'est sûr. Il faut que ça se fasse sur le temps long. On n'est pas là pour réclamer des choses au gouvernement. À la rigueur, ça, pour 15 jours suffirait. On est là pour faire quelque chose en dehors des schémas. Donc il faut qu'on développe nos propres schémas et ça prend du temps.
Bonjour. Alors c'est chouette tout ça, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Dans les médias, on pointe du doigt les petits casseurs qu'on a eu par-ci par-là, et c'est nul. Mais faut quand même bien se rendre compte que c'est vraiment les moindres des malfaiteurs qu'on a parmi nous. C'est quand même le classique en fait de pointer du doigt les petits du peuple, pendant qu'il y a des gens qui se vautrent et qui commettent des méfaits, enfin qui sont totalement aseptisés et qui sont bien pires, et qui gardent publiquement les mains propres et impunies. Voilà, je pense que si aujourd'hui t'es pas énervé, c'est que t'as pas fait attention à ce qui s'est passé ces dernières années. Socialement, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de stigmatiser le petit peuple, le petit chômeur ou le petit immigré comme un malfaiteur social. On a souvent l'image de, il y a 10 pommes par terre et puis ils vont en prendre 9, ils vont nous en donner une, et ils vont dire ouais tiens prends une pomme mais fais attention, il y a peut-être un immigré ou un chômeur qui va essayer de te la voler. Faut qu'on sorte de ça, faut se rappeler qu'on a le pouvoir, y compris le pouvoir physique, et on est quand même 66 millions, eux ils sont quelques milliers, donc voilà, on a le pouvoir. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inscrit pour parler?
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
qui en a marre que ce soit toujours les mêmes qui s'enrichissent alors que des gens en France ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas d'hébergement stable, de logement stable. Des gens qui ont travaillé toute leur vie sont obligés d'aller faire les poubelles pour manger ou aller quémander dans des associations d'économie alimentaire et que ça ne peut pas durer. Qu'il est temps que les richesses soient réellement réparties équitablement. On est dans un pays où notre slogan est « Liberté, égalité, fraternité ». C'est passé où ? La liberté, si on l'a, on peut s'exprimer. L'égalité, quand on voit qu'il y en a qui s'enrichissent et d'autres qui crèvent de faim.
Et votre situation personnelle, c'est quoi ?
SDF.
Comment vous en êtes arrivé là ?
Perte de boulot, ma compagne qui m'a laissé tomber, retrouvée à la rue.
Et donc là, qu'est-ce que vous avez envie de dire ici ce soir à tous les gens qui vont vous écouter ?
L'exprimer, tout simplement. Sensibiliser les gens à ce genre de situation. Et bien leur faire comprendre qu'il n'y a plus personne qui est à l'abri.
Et la prochaine personne.
Merci, monsieur. Vous êtes venu ici pourquoi ?
Moi je fais partie des ZAD et je suis venu ici parce que j'espère qu'on va arriver à empêcher que l'avenir qui est en train d'être écrit pour nous soit écrit et qu'on va arriver à écrire notre propre avenir, parce qu'on refuse cet avenir de la destruction de toutes les formes de vie, de la pollution des océans et des espaces et de la maltraitance envers toutes les formes de vie aussi.
Et ce discours là qui est plus sur la préservation de l'environnement, il existe ici, vous l'avez senti ?
Ouais, je crois qu'il y a plein de gens ici qui partagent plein de choses et plus ou moins avec des degrés d'engagement, mais ouais, bien sûr, je sais qu'ici il y a plein de gens qui sont de Bure, qui se battent contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Voilà, il y a des copains que j'ai vus de là-bas. Il y a des gens qui sont engagés à Calais, qui sont ici, et voilà, c'est les luttes se croisent, quoi, et on refuse cette maltraitance, on refuse cette souffrance, et on est là pour écrire un autre destin pour toutes les espèces qui habitent la planète.
Et vous pensez que ce qui se passe ici, c'est le début d'un mouvement important ?
J'en sais rien. La France est l'un des pays maîtres de la répression des mouvements populaires. Donc il y a de bonnes chances qu'ils sachent noyauter le mouvement de l'intérieur en nous infiltrant ou en nous tapant dessus, à décourager les gens de revenir. Mais je pense que les gens qui sont venus ici, ils ont appris plein de trucs. Et que du coup, ça fait des gens qui rejoignent la lutte au fond de leur cœur. Ils savent que plus jamais ils pourront être soumis comme ils l'étaient avant. Et ils verront les choses d'un autre œil.
Bonsoir. Vous êtes très occupé parce que vous êtes technicien de la radio qui a démarré ce soir, ce mercredi.
Mais moi, je suis normalement pas du tout technicien, mais j'ai démarré ce soir, ouais. La radio a démarré ce soir, on a commencé tout à l'heure. Donc on a encore quelques petits problèmes, mais pas tant que ça, finalement. Pour mon première soirée, c'est pas totalement catastrophique.
Et donc, qui s'exprime ici sur cette radio ?
En fait, on a décidé de laisser la possibilité à tout un tas de monde de s'exprimer. Donc, les gens viennent nous voir, nous proposent un sujet, ont envie de parler de quelque chose, ont envie de débattre de quelque chose, et on les invite à parler avec nous. Alors, il y a des gens qui sont là pour modérer, parfois il n'y en a pas. Ensuite, on repasse sur l'AG, on diffuse aussi une partie de l'AG, on ne la diffuse pas entièrement, mais voilà, donc la parole s'échange. Il y a des gens qui nous amènent des petits bouts de documentaires, qui enregistrent, qui montent des trucs chez eux, et on les diffuse ensuite à l'antenne.
Et pourquoi vous êtes venu ici ce soir ?
On est venu ici parce qu'on s'est dit qu'il y avait une possibilité de créer de la relation, créer des relations avec la radio, c'est-à-dire de faire que les gens, comme vous le voyez là en face de vous, s'assoient à une table, discutent les uns avec les autres et se rencontrent. Et à partir de là, quand on commence à parler, quand on commence à bricoler quelque chose ensemble, c'est quand même un petit peu le début d'une réconciliation. En tout cas, on pose une base politique. Vous voyez, sans slogan, sans mot d'ordre, on fabrique quelque chose ensemble et on voit ce que ça donne.
Les gardes, vous les sabreurs, les bourgeois, les gamins et les curés. À la jeune garde.
Vous venez d'arriver là ?
Oh, je suis là depuis 20 minutes à peu près.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ?
Ce qui m'a donné envie de venir, j'ai travaillé toute la journée, j'avais besoin de respirer un petit peu, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai appris incidemment qu'il y avait ce mouvement. Ben, je me suis dit, tiens, je vais y aller, ça va me dégourdir les gens, et puis surtout, je vais nouer des contacts, je vais essayer d'en savoir plus. Il y a cette idée du partage, il y a cette idée... Et puis là, je crois que ça va être un peu plus politique, là. Donc je voudrais écouter un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Et...
Ça a du sens pour vous, ce qui se passe ici, par rapport au contexte ?
Sûrement. Je crois que... si je comprends bien, c'est donner la parole au peuple, c'est ça. Enfin, je crois que c'est revenir en fait aux origines de la démocratie, c'est un petit peu ça. C'est pas une démocratie confisquée qui se fait par un certain nombre de personnes, toujours les mêmes d'ailleurs. Donc je crois que ça peut être intéressant, effectivement. C'est une participation effective de la base, d'une façon horizontale. Je pense que ça, c'est intéressant.
Moi, j'ai passé le week-end à l'étranger en lisant la presse et c'était un petit peu bizarre d'être loin, en fait, de loin de Paris à ce moment-là, qu'il commençait à se passer quelque chose de mobilisation citoyenne qu'on attend tous depuis très longtemps.
Vous dites un mouvement citoyen qu'on attendait depuis longtemps. Ça veut dire quoi?
Quand on a voté à gauche et que je crois que comme tout le monde ici, en tout cas beaucoup en tout cas, on doit se retrouver un petit peu à être déçus de ce qui se passe depuis quelques années. Et donc, ouais, peut-être voir s'il y a d'autres formes de mobilisation qui ne sont pas uniquement des formes de mobilisation politique institutionnalisée qui pourraient être inspirantes.
Je pense qu'il y a quand même une vraie déception sur ce que la politique institutionnelle peut apporter. On a quand même eu des révélations dernièrement sur la fraude fiscale, quand même d'hommes politiques et de femmes politiques aussi. Et donc effectivement de se dire qu'on peut avoir des mouvements citoyens qui reprennent un petit peu en main la vie de la cité, ça fait du bien. Hey !
Oui, ça fait du bien. Si vous êtes à Paris, allez faire un tour Place de la République. Vous pouvez aussi suivre le mouvement sur les réseaux sociaux hashtag Nuit Debout ou sur la web radio. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.